Au Québec, les recherches indiquent que les personnes aînées LGBTQIA+ courent un risque accru d'isolement social et de problèmes de santé mentale, souvent par peur de devoir retourner dans le placard une fois intégrés à un milieu de vie. Et pour améliorer l'inclusion et garantir la bientraitance, la Fondation Emergence a lancé une tournée de formation à travers le Québec, qui tient toujours le même titre, hein, « Pour que vieillir soit gay ». Pour en parler, nous recevons Julien Rougerie, qui est responsable de ce projet à la Fondation Emergence. Merci d'être avec nous. Alors, les études soulignent la crainte de l'invisibilité ou de l'intimidation même chez ces aînés. Qu'est-ce qui, dans le vécu historique de cette génération, explique cette peur de retourner ou de devoir retourner dans le placard, dans un milieu de vie, donc une résidence?
Ah oui, alors cette invisibilité, hein, ça reste très, très, très présent dans les milieux aînés au Québec. Hein. C'est des milieux dans lesquels j'évolue, les milieux d'hébergement depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Puis souvent, le constat au niveau des envoyés de la direction, c'est que personne n'aurait jamais évoqué être gay, lesbienne, bisexuel ou trans, alors qu'on sait que c'est théoriquement 10% de la population. Donc, dans leur propre milieu de vie, les gens ne se sentent pas en sécurité d'être authentiques, d'être eux-mêmes, de parler de leurs relations significatives, d'exprimer leurs vœux, etc. Et ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, le parcours de vie des personnes âgées LGBTQ+, elles ont connu l'époque où la stigmatisation sociale était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Il y avait la dimension, la stigmatisation religieuse. C'était considéré comme une maladie il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. La transidentité au Québec, on considérait que c'était une maladie jusqu'en 2013. Et la stigmatisation juridique, on pouvait aller en prison jusqu'en 1969. On pouvait perdre son emploi. La pleine reconnaissance des couples de même genre, ça fait 20 ans seulement. Et puis la protection des personnes trans contre les discriminations, ça remonte à 2016. Donc c'est quand même des choses qui sont arrivées extrêmement tardivement dans la vie de nos aînés.
Alors, quel est l'objectif principal de cette tournée, finalement, en vertu de ce qu'on vient d'entendre là?
Oui, alors l'objectif principal, c'est justement pour les milieux aînés de prendre conscience des réalités du vieillissement chez les personnes qui sont LGBTQ+. Il y a, vous, tu parlais d'isolement social, etc. Ça, c'est des choses qui sont très, très bien documentées dans la recherche. Donc, vieillir en étant LGBTQ+, il y a des challenges supplémentaires par rapport aux autres personnes. Et on adresse aussi qu'est-ce que les équipes d'intervention, les professionnels peuvent faire pour être plus inclusifs dans leur approche, dans leur milieu. C'est quoi les petites choses à faire pour montrer dans les milieux aînés que les gens ont le droit d'en parler si ils ou elles le souhaitent. Je ne dis pas que les milieux aînés sont plus homophobes, transphobes que la moyenne, mais parfois on entretient une culture de tabou. Donc parce qu'on n'en parle jamais, les milieux sont perçus comme insécuritaires, et parce qu'ils sont perçus comme insécuritaires, les gens n'osent pas être authentiques dans ces milieux-là. Donc c'est un petit peu ce cercle vicieux là qu'on cherche à défaire à travers notre tournée de sensibilisation.
Alors, si je comprends bien, on s'adresse surtout aux gens qui donnent des services ou qui gèrent des milieux de vie, des résidences, des CHSLD, etc. Est-ce qu'il y a des exemples pratiques qu'on fait ou qu'on peut donner à des gens dans ces milieux pour mieux accueillir les personnes des communautés de la diversité sexuelle et de genre?
Oui, je peux évoquer quelques bonnes pratiques. J'ai déjà parlé de cette notion générale de briser le cercle vicieux de l'invisibilité. On ne les voit pas, ces gens-là, donc on n'en parle pas. Et parce qu'on n'en parle pas, ces gens-là ne se sentent pas autorisés d'être eux-mêmes dans leur propre milieu de vie. Il y a la question du langage inclusif. Parfois, dans des questions de routine, les questions vont très vite sur toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, etc. Tout ça peut être perçu pour les personnes LGBTQ+ comme une non-autorisation à exister quand une question est trop orientée vers une attente autour de la norme hétérosexuelle. Ça peut paraître pour un petit détail, mais si on demande à une femme âgée une question sur son conjoint potentiel, alors qu'elle a été longtemps en couple avec une femme, c'est sûr qu'on la met dans une position très inconfortable et ça n'invite pas vraiment à partager son parcours de vie.
J'ai l'impression aussi que cette formation s'adresse aussi aux gens qu'on appelle les proches aidants, la famille choisie, les amis, les partenaires. Comment cette formation va-t-elle les aider?
Alors, on parle aussi de proche aidance dans nos formations. On a même tout un programme de formation dédié à la question de la proche aidance chez les minorités sexuelles et de genre. Donc, encore une fois, c'est des formations qui sont tournées vers les professionnels, les équipes d'intervention, les bénévoles de ces milieux-là. Le grand public aussi, en général, bien entendu. Encore une fois, comment ça peut aider les personnes proches aidantes ou les personnes aînées? Encore une fois, la meilleure compréhension des enjeux, des fois on n'y pense pas, mais être proche aidant LGBTQ+, ça vient avec des enjeux supplémentaires, tout comme être vieillir en étant LGBTQ+, ça vient avec des enjeux supplémentaires. Donc, c'est d'éveiller par rapport à ces enjeux-là et voir c'est quoi les bonnes pratiques qu'on peut mettre pour permettre aux personnes là de d'aborder cette partie-là de leur identité, de leur vécu.
On a parlé tout à l'heure de langue neutre, plus inclusive. Est-ce que c'est facile de parler de ce sujet à un moment où présentement, on sait qu'il y a quand même un petit peu de rejet là, de nos communautés dans l'espace public? Alors, comment on gère ça, surtout dans des milieux peut-être parfois plus conservateurs?
C'est sûr que le climat politique, médiatique est moins favorable qu'il ne l'était il y a quelques années au niveau de la diversité sexuelle et de genre. Néanmoins, dans les formations, il y a peut-être plus de réactions négatives que dans le passé, mais on reste quand même sur un accueil très positif. Hein, les gens qui travaillent dans les milieux de la santé, des services sociaux, c'est quand même des gens qui ont des valeurs humanistes. Mais ils peuvent avoir des préjugés, c'est bien correct d'avoir des préjugés, et puis on y travaille ensemble à les détecter et les contourner. Ce qui est la question du langage inclusif, je pense que ça dépend vraiment de la façon de l'aborder. C'est sûr que des fois, il y a des notions qui sont mal comprises, notamment la question des pronoms, qui parfois, ça laisse des gens au bord de la route parce que déjà un pronom, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et puis, c'est aussi un modèle très anglo-saxon, hein, de parler des pronoms seulement, parce qu'en anglais, he, she, her, c'est les seuls marqueurs de genre à peu près qu'on retrouve dans la langue. En français, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, moi, des fois, il s'agit plutôt de vulgariser. La notion de respect de l'identité de genre d'une personne en utilisant le genre qui convient à la personne pour référer à elle. Et c'est des pratiques assez simples, notamment de se présenter en premier. Et qu'en français, quand quelqu'un se présente, il y a souvent suffisamment de marqueurs de genre pour déduire c'est quoi. Si quelqu'un vous dit bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis infirmière, je suis une retraitée de l'éducation, j'étais présente à la réunion l'autre jour, ça répond à peu près à toutes nos questions. On sait que c'est Nathalie et Nathalie parle d'elle-même au féminin. Ça nous donne un indice, et puis si on n'est pas sûr d'avoir compris, c'est correct de poser une question. Comment vous souhaitez que je réfère à vous? Donc des fois, c'est vraiment sur les principes de fond, je pense que ça reste très accessible pour tout le monde, une fois que c'est bien compris. Des fois, il s'agit de contourner certaines notions qui parfois sont mal comprises, comme la question des pronoms, parfois, où on peut faire passer les mêmes messages sans forcément mettre en avant des totems qui peuvent braquer des gens tout de suite, alors que des fois, c'est pas forcément nécessaire.
J'aimerais peut-être aller. C'est quoi la conséquence si on ne s'occupe pas des personnes âgées, des personnes vieillissantes de nos communautés? Si on n'en s'occupe pas, si on ne les accueille pas convenablement, s'ils doivent retourner dans le placard, c'est quoi la conséquence de ces personnes-là?
Ben ça, c'est bien documenté, hein. Les conséquences, elles sont désastreuses sur leur bien-être. Tout ce qui est troubles psychologiques, dépression, idéation suicidaire, c'est plus élevé chez les personnes âgées LGBTQ+, 2 à 3 fois plus élevé selon les études. Chez les personnes trans, ça peut aller jusqu'à 6 fois, 8 fois le niveau de vulnérabilité par rapport aux autres catégories de la population. Donc très concrètement, ça a un impact sur leur santé mentale, leur santé physique, leur capacité à s'intégrer dans leur milieu de vie, à socialiser. Et même, c'est un problème d'enjeu de santé publique, parce que les personnes âgées LGBTQ+, celles qui ne sont pas institutionnalisées du moins, elles vont moins vers les services de santé, les services sociaux, à cause de leur histoire de vie par rapport à ça, les traumatismes qu'elles ont pu avoir, plus les approches hétéronormatives, entre guillemets, qui peuvent perdurer dans le milieu de la santé, ou le fait de est-ce que je vais pouvoir être accompagné de mon conjoint, de ma conjointe, est-ce que je vais être respecté dans mon genre en tant que personne trans, ça les écarte parfois des services de santé et des services sociaux. Puis ça peut constituer un enjeu de santé publique pour tous les dépistages, notamment, je pense à certains cancers, etc., où on sait que c'est moins bien pris en charge chez les personnes LGBTQ+, à cause de la réticence qu'on peut avoir vis-à-vis du milieu de la santé.
Julien, on va passer à un deuxième sujet parce qu'il vous touche et il touche beaucoup de monde. En même temps, la Fondation Émergence travaille sur les thérapies de conversion. On sait que c'est illégal, c'est même criminel au Canada, mais il y a encore des besoins de formation et ça aussi, c'est une formation que vous donnez.
On donne des formations également sur le sujet important des thérapies de conversion. Comme tu disais, Denis Martin, ça a été criminalisé en 2022 au Canada. C'est pas parce que quelque chose est criminalisé que ça disparaît, hein. Y a beaucoup de choses interdites dans le code criminel qui se passent tous les jours, malheureusement. C'est un sujet très important parce que souvent les gens ne savent pas ce que c'est une thérapie de conversion. On a quelques images, des images d'électrochocs, de thérapie par aversion, d'exorcisme, etc. La définition dans le code criminel, elle est beaucoup, beaucoup plus large. On parle de pratiques, de services, de traitements qui visent à changer, réprimer, voire même réduire le fait qu'une personne soit LGBTQ+. Donc ça peut concerner des coachs de bien-être, ça peut conserver des pratiques New Age, ça peut être des psychologues, sexologues auraient des biais vis-à-vis de la diversité sexuelle et de genre, et du coup, ça orienterait leur traitement vers un déni ou une réduction de la dimension LGBTQ+ de la personne.
Donc une forme cachée finalement de thérapie de conversion.
Oui, c'est ça. Ça prend des formes insidieuses, surtout depuis que ça a été criminalisé. Hein. Les gens vont plus mettre un panneau thérapie de conversion ou nous on guérit l'homosexualité à tel endroit. D'autant plus que la loi criminalise la publicité. Ce qui est une très bonne chose, hein, mais on peut avoir des ennuis avec la justice au Canada pour faire la promotion d'un service de conversion. Donc vraiment, ce qui pêche un petit peu aujourd'hui, c'est la compréhension de ce phénomène, notamment la prévalence du phénomène. Elle est assez élevée, hein, c'est au moins 4,4% des personnes LGBTQ+ au Québec qui en ont subi, selon une étude de l'UQAM. Donc c'est énorme, le bassin potentiel de victimes. Très peu de gens portent plainte, parce que pour porter plainte, il faut faire quelque part son coming out à la police. Donc, si on a vécu une thérapie de conversion, c'est qu'on est LGBTQ+ soi-même. On apprend aussi dans nos formations et dans une étude de l'UQAM que la moitié des victimes ont quelque part consenti, de façon éclairée ou non, thérapie de conversion. Donc ça peut être une autre barrière pour porter plainte, etc. Puis on adresse vraiment c'est quoi l'accompagnement des victimes sur le plan juridique, mais aussi sur le plan plus psychosocial, là, comment on peut outiller les professionnels à mieux accompagner les personnes qui ont survécu à ces thérapies-là.
Donc, deux formations, il y a la formation pour que Vire soit gay se promène un peu partout au Québec. Il y a des villes et tout ça. Pour trouver l'information, c'est sur le site web de la Fondation Émergence.
Exactement.
Formation
Ou nous
Émergence.
contacter, on fait aussi des formations sur demande.
Et l'autre formation, donc, sur les thérapies de conversion, ça aussi, ça fait une tournée. Et puis ça aussi, si on veut des informations, on va toujours sur le site web.
Exactement. Et aussi, on a évoqué la formation sur la famille choisie,
Oui.
la question des personnes proches aidantes. C'est aussi quelque chose qu'on offre sur demande à travers tout le Québec.
Alors, Julien Rougerie, formateur à la Fondation Émergence, merci beaucoup.
Merci.